mode d'emploi.
Nous proposons une contribution des employeurs
rotule. Nous n'avons encore rien affirmé il y a un quart d'heure. La CGT ne négociera pas sur la base de recul de droit des demandeurs d'emploi. Nous avons appelé à la mobilisation aujourd'hui et on vous remercie d'avoir répondu présent. Mais soyons conscients que la bataille ne s'arrête pas ce soir. Le 13 mars, une nouvelle réunion aura lieu. Il ne faut absolument pas lâcher sur quelque annexe que ce soit. S'il ne lâche pas sur l'annexe 4, ça veut dire que demain, l'annexe 8 et 10 sera remise en cause. Donc il faut maintenir l'ensemble des annexes qui prend en compte la particularité de chaque secteur professionnel. Si ces annexes ont été mis en place, c'est parce que la précarité est une règle aujourd'hui en France. La CGT propose de la combattre. Si les annexes 8 et 10 ont été mises en place, c'est pour répondre à une particularité qui fait que le métier d'intermittent du spectacle, le statut d'intermittent du spectacle, ne permet pas de vivre dignement toutes les années. Et donc il faut le prendre en compte et il faut maintenir les annexes 8 et 10. Pour autant, nous avons porté une proposition au MEDEF tout à l'heure qui consiste à ouvrir des discussions sur les annexes 8 et 10. Car nous proposons de les améliorer et non pas de les remettre en cause. Nous savons que nombre d'intermittents aujourd'hui passent à travers les mailles du filet et n'ont pas droit aux indemnisations. Oui, nous sommes prêts à remettre tout à place. Le MEDEF ne pourra pas nous faire ce reproche. Mais prenons le temps de mettre tout à plat. Prenons le temps de voir l'effet de ces annexes. Prenons le temps de voir comment les améliorer. Et la CGT sera prête à poser sa signature en bas d'un texte. Nous comptons sur vous pour poursuivre la mobilisation.
Vous avez en tête la banderole que nous avons placée à l'entrée du MEDEF Île-de-France et qui dit « Ça sent le gâtas, ça va péter !» Et ça va péter. Ça sent le gâtas, 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 ça va péter. Ça va péter. Ça sent le gâtas.
Et l'actualité, c'est la grève, la dette et l'austérité.
C'est la crise.
Bravo.
Et oui, c'était le 27 février, une manif devant le MEDEF, tenue par les intermittents, les intérimaires, les précaires et les associations de chômeurs. C'est important de manifester puisque c'est comme ça parfois qu'on change les choses, bien doucement malheureusement. Voilà, donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. C'est l'équipe d'AC aujourd'hui, voilà, donc c'est une émission qui va péter l'audimat. Non, je plaisante. On va essayer de tenir informés nos auditeurs et auditrices, voilà. Alors, puisqu'on parlait juste, on a entendu des sons de manif là, Ludo et Christophe. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà. Donc, apparemment, il y a eu une note de référé de la Cour des comptes sur les intermittents et intérimaires, Ludo.
Oui, alors tout à fait. Donc, elle date depuis d'un petit moment déjà, mais en fait, c'est elle qui a préparé les négociations de l'UNEDIC, puisqu'elle a suggéré fortement au patronat d'aligner le régime des intermittents et des intérimaires sur le régime général, donc de leur faire perdre leur droit à une meilleure indemnisation du fait de leur précarité. Alors, on a vu les intermittents, c'est très connu et tout le monde en parle bien, mais la situation des intérimaires est moins connue et leurs soi-disant privilèges sont évidemment beaucoup moins connus. Et donc, on s'est quand même replongé dans cette note pour voir les arguments qui étaient développés par la Cour des comptes. Et donc, à la sortie, nous sommes obligés de constater qu'en fait, on a, selon la Cour des comptes elle-même, un des meilleurs systèmes d'assurance chômage concernant, alors j'allais dire les précaires, c'est pas tout à fait exact, c'est les intérimaires. Alors, bon, elle le dit elle-même, c'est-à-dire que on n'a pas ce système n'a pas d'équivalent en Angleterre et en Allemagne, mais elle ajoute d'ailleurs que ça incite sûrement les employeurs à avoir recours massivement à ce type de contrat. Donc, on pourrait se demander si le statut n'a pas été développé justement dans l'idée de répondre à la demande d'emploi précaire. Et non pas l'inverse, c'est-à-dire que le statut privilégié désormais maintenant encourage les gens à rester dans la précarité. Donc bon, ça c'est une remarque préalable. Alors sur le fond, d'abord il faut préciser une chose, un argument qui a été utilisé un peu malhonnêtement, c'est qu'on a dit il n'y a pas de plafond d'indemnisation l'indemnisation des intérimaires, puisqu'ils peuvent cumuler leurs revenus d'activité plus leurs allocations chômage. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. C'est vrai qu'il n'y a pas de plafond, comme le dit la Cour des comptes, au sens d'indemnisation et de volume travaillé. C'est-à-dire que, en réalité, il y a une limitation concernant le régime général. Donc, je vais prendre un exemple simple. Vous avez travaillé à un niveau horaire, vous étiez bien payé pour le niveau horaire pour lequel vous travaillez, vous vous retrouvez au chômage, et quand vous reprenez une activité, eh ben, on va déduire, on va limiter votre surcroît d'activité via un calcul, en fait, sur une base horaire. Donc, je prends un exemple simple, vous touchez temps à l'horaire, votre indemnisation est de temps, eh bien, à chaque fois que vous travaillerez en plus, la base de votre volume horaire, ce que vous gagnez, il y aura un différentiel. D'accord. Qui sera calculé, ce qui fait qu'on va modérer l'allocation ainsi, la somme par jour d'allocation. Mais donc ça,
par exemple, si je travaille mon horaire, c'est je fais par exemple 5 heures par jour sur 3 jours, ça fait 15 heures, donc je suis considéré comme intérimaire plus ou moins.
Voilà.
Et je touche par exemple 30 ou 40 euros de l'heure. Ce qui est très bien payé pour une heure travaillée. Si je passe au chômage et qu'ensuite je reprends un travail classique, là, à ce moment-là, le différentiel sera de combien?
Alors, justement, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. C'est que si justement t'es au chômage à suite à une, t'as eu un licenciement, t'es passé à un CDD, tu as une indemnisation qui a été calculée sur tes horaires de travail.
D'accord.
D'accord. À partir du moment où tu retravailles, même à temps partiel, en fonction de ce que t'es payé à l'heure, ton surcroît de revenu d'activité par rapport à ton allocation est minoré ou pas.
D'accord.
Voilà, ce qui fait qu'en fait, c'est pas toujours très rentable pour quelqu'un qui est en CDD ou quelqu'un qui a perdu un emploi et qui tout d'un coup retrouve un CDD d'aller travailler. En réalité, c'est le système des CDD qui n'est pas avantageux pour le chômeur. Et c'est pas le système des intermittents qui au contraire lui est très bien fait, puisque le système des intermittents, des intérimaires lui permet en fait de permettre de cumuler plus largement tes revenus d'activité à l'heure de ton indemnisation. Mais cela étant dit, on sait comment fonctionne Pôle emploi, vous avez travaillé un certain nombre de jours dans le mois, c'est automatiquement déduit de vos revenus, et ça c'est valable à la fois pour les intérimaires, pour les intermittents et pour les intérimaires. Donc évidemment pour les intermittents c'est beaucoup plus large, mais c'est à la fois valable pour les intérimaires et pour les CDD classiques.
D'accord.
Donc il y a bien quand même une perte de salaire quand un intérimaire ne travaille pas. Et la Cour des comptes donne des chiffres, donc c'est les siens. Alors évidemment c'est des chiffres moyens, donc c'est une moyenne, donc on sait pas trop ce que ça représente. Mais voilà. Et pour vous dire d'ailleurs que le système des intérimaires est bien fait, parce que pour être indemnisé au titre de l'intérim, il faut être tout le temps intérimaire et bénéficier tout le temps du contrat d'intérimaire, ou que les contrats d'intérim soient plus importants que les contrats de CDD.
Et ce succès, donc, etc.
C'est,
quoi, oui.
Voilà, donc ouais. C'est vraiment une carrière, donc vous êtes là-dedans. Et au passage, tous les intérimaires ne sont pas indemnisés au titre du régime des intérimaires, puisque, de mémoire, on va dire que 10% des intérimaires concentrent, ou 30% des intérimaires concentrent 50% des heures qui sont effectuées. Donc en réalité, il y a une minorité d'intérimaires qui bénéficient de ce régime. Eh bien, à l'arrivée, donc sur les chiffres, ben, il n'y a pas photo. Il n'y a tout simplement pas photo parce qu'en fait, un intérimaire coûte moins cher que au chômage. Hein, donc, coûte moins cher qu'un un CDD au chômage. C'est, ou un ex-CDD au chômage, qui sera, avant de retrouver un CDI, risque d'enchaîner plusieurs CDD. C'est des calculs un peu, bon, un peu spéciaux, hein, mais selon les chiffres de la Cour du compte, c'est le cas. L'intérimaire travaille plus et coûte moins cher. Et il a moins recours à ses droits, bien entendu. Et il finit par être mieux payé. Et bien mieux payé. Et c'est, en fait, en réalité, c'est ça qu'on lui reproche. Alors, je vais quand même donner juste quelques chiffres, hein. Pour bien situer, bon, vous voyez, donc moi je suis en CDD, mais je suis à temps partiel, ça marche pas très bien, donc je bénéficie du régime général et je travaille 50 heures dans le mois. Donc 50 heures dans le mois, c'est pas beaucoup, c'est moins d'un mi-temps. C'est assez ridicule. Je rappelle, 35 heures, c'est 151 heures. Bon, mais 50 heures, je suis un ouvrier, alors je gagne pas beaucoup et allez, je gagne la moitié du SMIC, c'est toujours les chiffres de la Cour des comptes. Hein. Donc là, je gagne 575 euros par mois. En plus de mon allocation, bien entendu. Et donc, je vais être indemnisé, toujours en moyenne, je suis plus indemnisé...
Que je ne touche en tant que salarié.
Je ne suis pas, évidemment, et à peine plus. Et non, c'est ça qui est terrible. Ouais. C'est qu'en réalité, je suis indemnisé un nombre de jours plus important qu'un intérimaire, en moyenne. Et en moyenne, j'ai un montant d'allocation perçu qui est inférieur. Et donc, c'est bien la mauvaise indemnisation en moyenne des CDD et des bas CDD qui posent problème en réalité. Donc, revenu total, alors c'est toujours cette moyenne, revenu total de l'intérimaire, c'est du CDD au chômage qui travaille clopin-clopin quelques jours par mois, ou là en l'occurrence là 10 jours par mois, donc 1151 euros, il arrive péniblement au SMIG, et si on fait un ratio, ce que fait la Cour des comptes, bon, bah, ça lui bouffe 50% allocation, 50% revenu. Voilà. Mais, et donc, il a perçu une allocation qui est plus élevée, excuse-moi, que de 576 euros, donc qui est la moitié du SMIC. Comparativement, l'intérimaire travaille beaucoup plus. Il a travaillé 96 heures, donc le double. Donc, je rappelle, ça fait deux tiers du temps. C'est pas un temps plein. Et là, il perçoit pour les deux tiers du temps, parce qu'il est en intérim et qu'il est mieux payé, il perçoit un SMIC, donc 1154 euros, exactement. Bon, mais n'empêche qu'il a travaillé deux tiers du temps. Donc, il est indemnisé 13 jours au lieu de 19.
D'accord. Donc,
la moitié. Et il touche une allocation qui est moins importante que le CDDiste, en fait.
D'accord.
Que le CDD. Il touche 486 euros. Bon, 500 euros, hein, on en est là quand même. On est à une centaine d'euros près. Et donc, son revenu total est effectivement de 1640 euros. Donc, en réalité, ce qu'on peut dire, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On a développé l'intérim dans ce sens précis. L'intérim s'arrête quand l'employeur le veut, à n'importe quel moment il le veut. Et donc, il y a des trous entre les missions. Et effectivement, bah, il faut compenser ces trous et arriver à en vivre à peu près correctement. Oui, c'est pas un choix du salarié. Et en même temps, déplorer que ces gens-là, mais ma foi, ils sont quand même très très avantagés. Alors que ce qui ressort de ce calcul-là, c'est qu'en réalité, c'est les CDD qui sont mal indemnisés. C'est les chômeurs, simplement, qui sont mal indemnisés. Les chômeurs victimes d'un licenciement et qui retrouvent des petits contrats à côté. Et c'est finalement ce que montre parfaitement ce calcul. Et donc, on a envie de dire c'est parfait. Alignons les chômeurs, donc la catégorie CDD d'indemnisation sur... Alors, je dis ça un peu comme ça, mais alignons-les sur les intermittents. Alors, d'accord, on va dire c'est un peu exagéré quand même d'aligner tous les gens qui sont au chômage. Mais la précarité aujourd'hui, elle a bien des formes. On peut être en CDD d'un jour, de deux mois, de nana. Donc, indemnisons mieux les CDD courts ou les gens qui ont réellement des problèmes d'accès au travail, trouvons un mixte, en tout cas, ne tirons pas vers le bas un statut qui, dans certains secteurs, ne laisse le choix à personne. C'est-à-dire qu'à la limite, dans le bâtiment, vous aurez peut-être des missions d'un mois, mais dans la restauration ou dans l'événementiel, il faut pas compter que vous ayez des missions de plus de 4 jours, de plus de 5 jours, et que vous ayez un emploi qui soit éclaté sur tout le mois. Voilà. Et donc, les sages de la Cour des comptes ont été très bien et ont établi ce très bon calcul. Bon, évidemment, ils tirent les conclusions dans l'autre sens. Mais malheureusement, en période de haut chômage, Je rappelle quand même que les intérimaires sont ceux qui ont payé le prix le plus fort à la crise, en réalité, parce que c'était la première variable d'ajustement. Et c'est évidemment, quand il y a eu ce rebond en 2010-2011, c'est la première catégorie qui en a bénéficié. Et en fait, quand le régime intérimaire se porte bien, l'indemnisation tourne bien. Vous voyez, c'est-à-dire que leur solde serait presque positif, et c'est un bon système, en fait.
Il faut savoir qu'effectivement, pour toucher le chômage, il faut cotiser. Et pour cotiser, il faut travailler. Et donc, quelque part, voilà. Oui,
c'est le chômage qui crée de toute façon le déficit, bien sûr.
Tout à fait. Tu voulais intervenir, Christophe ?
Oui, je voulais faire un rappel historique, mais ça, Ludo vient de le dire. Donc, bref, il faut savoir que pendant des années, le patronat a quand même été dans une logique de développer l'intérim comme variable d'ajustement et comme arme contre le CDI.
Et contre le chômage, d'une certaine façon, c'était l'argument des hommes politiques.
Je peux pas vous employer ad vitam aeternam, mais je vous employer 30 jours. Vous aurez quand même quelque chose.
Oui, et puis surtout, je peux vous employer 5 jours et puis vous reprendre 6 jours après.
En France, on arrive dans un pays anglo-saxon, on a autant de précarité qu'en Angleterre. De toute façon, avec toutes les mesures qui ont été mises en œuvre,
Moi, je crois que de toute façon, la précarité, elle est pas. Je veux dire, tout en étant mieux protégé, c'est un phénomène qu'on retrouve.
On est dans une économie libérale en France, malgré tout.
Oui. Quoi qu'on en dise. On va en profiter parce que justement, on est dans les CDD, dans le saisonnier, enfin dans le travail temporaire ou intérimaire. À propos des CDD, Christophe, au niveau de la rupture conventionnelle, qu'est-ce qui s'est passé?
Ça concerne aussi bien les CDD que les CDI tous les types de contrats.
Oui, bien sûr.
Vous savez, je rappelle une chose, dans la vie, dans l'amour, tout est précaire. C'est une parole de Madame Parizeau. Évidemment, quand il s'agit de parler de pognon, à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute. Et quand il y a eu des négociations avec le MEDEF il y a quelques années, l'idée était quoi? De virer les gens conventionnellement pour pas encombrer les tribunaux avec tous les frais de justice que pouvaient avoir les employeurs, etc. Donc c'est des sous. Donc il y a eu l'idée de la rupture conventionnelle, on se fait des bisous malgré tout, etc. Sauf que, la Cour de cassation a décidé de réduire le contrôle de la haute juridiction, c'est-à-dire l'instance, si tu veux, qui examine les motifs de rupture conventionnelle à peau de chagrin. C'est ce que indique dans un article Christophe Vigneault, qui est avocat du barreau de Paris, donc il sait quand même un petit peu de quoi il parle. Donc c'est récent, mais ça a des conséquences pour les gens. Donc là, on va en parler parce que ça concerne aussi bien les chômeurs, les précaires, que les gens qui sont en CDI, qui sont actifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que le 29 janvier 2014, donc récemment, la Cour de cassation a rendu 5 arrêts, alors je ne vais pas vous dire tous les textes de loi, qui sont très instructifs sur la portée du contrôle qu'elle souhaite exercer en termes de droit, donc au niveau de la loi, sur la notion de rupture conventionnelle. Alors en fait, le contrôle, il est quasiment réduit à peau de chagrin. Seul un vice de consentement, c'est-à-dire l'erreur, le dol ou la violence, pourra donner lieu à une nullité de la convention de rupture. Donc votre tête ne me revient pas, on peut rompre.
Voilà. Non, il faut quand même que le salarié signe.
Quand on sait, en termes de droit, quand on sait des conditions très restrictives, je cite Monsieur Vignon, que la reconnaissance d'un vice de consentement ou d'un dol, autant dire que, la stratégie de base du MEDEF, on ferme toutes les voies de recours possibles au niveau du droit et au niveau de la loi, de recours de la part du salarié qui est floué. C'est-à-dire que un défaut d'information du salarié sur sa possibilité de se faire assister par un conseiller ou salarié extérieur n'est pas considéré comme un vice. On ajoute à cela le fait qu'il n'y a plus la jurisprudence selon laquelle il y a l'existence d'un litige préalable. Un salarié peut voir sa rupture annulée une fois homologué ou autorisé, sauf à démontrer qu'on lui met un pistolet sur la tempe, bonjour, pour démontrer un truc pareil. Donc depuis le début, il y a eu 300 000 ruptures conventionnelles. L'objectif, c'était quand même pour sécuriser la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire empêcher toute contestation future du salarié. Ça, c'est un peu la logique de droite libérale de la politique de Rachida Dati qui a tout fait pour supprimer les voies de recours dans sa réforme des tribunaux au niveau prud'homal. Aujourd'hui, on est obligé de se déplacer à 100 km dans certaines provinces pour aller devant les prud'hommes, etc. C'est toujours cette même logique. Il faut savoir qu'avec plus de 300 000 ruptures conventionnelles signées chaque année, on est dont seulement 6% ont fait l'objet en 2013 d'un refus d'homologation. C'est trois fois rien. Et alors, cette belle construction juridique fait évidemment l'impasse. Mais alors, là, c'est un fond philosophique sur le fait que la relation salariée et patronale, quoi qu'il en soit, c'est une relation de subordination. C'est-à-dire qu'on n'est pas égaux entre les deux parties. Donc voilà, donc la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir... virer à moindre frais, puisque c'était un des objectifs du patronat, cette histoire de rupture conventionnelle. Hein.
C'était pas virer à moindre frais, c'était au départ, soi-disant, c'était pour éviter les chèques de dessous de table, ça permettait de les déclarer à l'UNEDIC.
Alors,
ça devait coûter moins cher.
Ça devait, à la base, effectivement, combattre la notion d'accord transactionnel. C'est-à-dire, je vous vire, mais je vous file une somme d'argent pour que vous n'allez pas devant les tribunaux. Ça se fait toujours.
Hein, oui, ça se fait toujours, bien sûr.
Voilà, notamment chez les cadres reçus.
Tout se fait dans ce monde, malheureusement.
Qu'est-ce qui...
C'est
tellement dur à entendre ça, de voir...
Mais surtout, ce qui est quand même un peu aberrant, c'est qu'il me semble, tu vas peut-être en parler tout à l'heure, c'est que l'OCDE a désigné... ce type de contrat comme comment dire un abus, une façon en fait de virer les seniors et de faire reporter je crois qu'ils disent littéralement c'est une forme de pré-retraite déguisée, c'est-à-dire de faire finir les carrières des seniors aux frais de l'État, quoi, en résumé, hein. Et donc ils se sont élevés au nom de l'activité des seniors. Or avec cette jurisprudence, les entreprises vont pas prendre le chemin de conserver les seniors chez eux, bien sûr. Or, lorsqu'on voit les négociations UNEDIC, donc toujours elles, la revendication du MEDEF actuelle dans les négociations, c'est quoi? C'est de revenir sur la légère indemnisation, durée d'indemnisation un peu plus longue, accordé aux 50-55 ans. C'est-à-dire que il y avait les 50-55 ans disposaient de 36 mois d'allocation contre les 24 mois pour les autres demandeurs d'emploi. Or le chômage des seniors est toujours vertigineux et le nombre de 50 ans et plus inscrits sur les listes de Pôle emploi a grimpé de 11% cette année. Voilà, ils sont plus de 1 million, dont beaucoup de chômeurs de longue durée. Donc déjà mais c'était encore trop généreux. Accorder 3 ans d'indemnité quand on est viré entre 50 et 55 ans, c'est trop généreux. Et puis le deuxième rabotage concerne en fait les plus de 61 à 62 ans qui jusqu'à maintenant, on était quand même libéral, on prolongeait l'indemnisation par l'assurance chômage jusqu'à la liquidation de leur retraite à taux plein. Et ça c'est encore trop payé aussi et c'est quelque chose qu'il faut supprimer donc en l'occurrence au détriment du salarié qui va se retrouver... Mais dans le même temps, comme on interdit, comme on supprime le recours au licenciement conventionnel. Donc ce n'est pas un licenciement conventionnel, mais c'est une rupture conventionnelle. Donc la rupture, comme on durcit en fait, on empêche en fait tout recours du salarié. Finalement, le problème du chômage. Du senior et de la perte d'emploi du senior va reposer uniquement sur le salarié ou sur l'ancien salarié. Puisque c'est lui, si on veut le virer, il n'aura pas forcément les recours ou l'énergie pour refuser un accord transactionnel, donc une rupture conventionnelle, qu'il ne pourra de toute façon pas dénoncer, et il se retrouvera au chômage avec au maximum 2 ans d'indemnité derrière lui. Et tout ça entre 50 et 60 ans.
De toute façon, les chiffres du RSA sur Paris et Île-de-France l'attestent. Ceux qui ont qui vivent aujourd'hui les conséquences de la crise économique, qu'ils soient peu ou fortement qualifiés, expérimentés, c'est tout simplement les seniors. Il y a 1,2 million de seniors précarisés et fragilisés en France. C'est énorme.
Voilà, donc un million de chômeurs qui ont plus de 50 ans.
Et qui nous retrouvons pour certains pas d'emploi. Voilà.
Je vous propose une petite couverture musicale, ensuite on reprend la parole. Merci.
vivant. Et même titubant sous un vieux soleil ivre. Vivant. Vivant.
Eh oui, je pense que vous avez tous reconnu, vous qui aimez les chanteurs à texte et militants, Marc Augeret, bien sûr, le grand Marc Augeret, voilà, c'est c'est celui que je préfère, certainement, pareil avec Brassens. Voilà, donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris-Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission Mode d'emploi. Je suis avec Ludo, Christophe et Cégile au micro, également Claude à la technique. On reprend cette émission pour rebondir sur le chômage, bien sûr, puisque pour comptabiliser les chômeurs, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a d'abord Pôle emploi qui a ses chiffres, hein, évidemment, hein, qui calcule selon effectivement le nombre de gens qui s'inscrivent et qui vont travailler ne serait-ce que 4 mois. Enfin, c'est 4 mois de travail pour être à Pôle emploi. Mais il y a également l'INSEE qui, lui, fait référence en l'état et qui calcule par rapport aux gens qui, c'est trimestriel, et il calcule par rapport à la semaine de référence qui est la semaine avant l'enquête proprement dite. Et puis, il y a d'autres choses aussi, je crois qu'il y a...
C'est sur un échantillon
de plusieurs... 5000 personnes, c'est ça. 100 000, excuse-moi. Oui, j'étais planté. Alors, dis-moi un petit peu, Ludo, toi, tu as les chiffres sous les yeux. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qu'il en est?
Eh ben, écoute, le problème, c'est qu'on y perd son lettre, hein. Donc, oui. Tout simplement. Donc, même à cette émission, où pourtant, on en a vu. Mais là, quand même, donc, pour vous donner une idée, selon Pôle emploi, il y a aujourd'hui 3,3 millions de chômeurs en France. De chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire n'ayant absolument pas travaillé du tout dans le mois qui précède leur inscription, enfin dans le mois où ils sont inscrits à Pôle emploi. L'INSEE, selon ses critères, en compte 2,8 millions. Ça fait une différence de 500 000 personnes.
C'est quand même assez conséquent.
C'est historique, en fait. C'est-à-dire que, en principe, en 2007, c'était l'enquête emploi qui était surévaluée. De très nombreux, hein, qui étaient assez proches de 1%, du fait de la mise en place de la radiation administrative de Pôle emploi. Depuis, on avait aligné les chiffres de l'INSEE sur les critères internationaux. Et donc, les chiffres avaient, du coup, sérieusement baissé. C'est-à-dire qu'une catégorie des chômeurs avait dépassé dans la catégorie du halo du chômage. Donc, on parlera plus tard de ce qu'est la catégorie du halo du chômage. Mais là, par contre, dans le sens contraire, 500 000 personnes... en moins, c'est historique, et c'est d'autant plus historique qu'il faut savoir que 16% des chômeurs que compte l'INSEE ne sont pas dans les statistiques de Pôle emploi. Alors si on fait un petit calcul, hein, ça fait à peu près, donc 16%, on va dire, allez, 300 à 400 000 chômeurs en plus.
Ça
fait 300 à 400 000 chômeurs en plus qui ne sont pas comptés dans les statistiques de Pôle emploi.
Oui, c'est là où je rebondis. Mais on peut le faire facilement, ça. Parce que si tu considères qu'une personne qui travaille 78 heures par mois n'est pas chômeuse, alors que tu es en catégorie C, je crois.
Là, je ne parle que de la catégorie A.
Ah, voilà. Donc, attends. J'ai taillé un peu ma démonstration. Tu fais du travail à temps partiel, mais vraiment précaire, moins de 78 heures par mois. T'es catégorie C en tant que chômeur. C'est-à-dire que tu perçois des indemnités à CDI qui sont un différentiel avec ce que tu auras gagné dans le mois. Mais si l'INSEE ne considère pas ces chômeurs comme existants, effectivement, t'as moins de chômeurs.
C'est là qu'on n'est pas d'accord. Il s'agit bien de que je parle juste des chômeurs qui n'ont pas travaillé du tout. Je parle des chômeurs en catégorie A de Pôle emploi et des chômeurs de l'INSEE qui n'ont pas travaillé du tout. Donc quelque part, enfin, c'est quand même c'est assez ahurissant. C'est-à-dire qu'on a eu donc 3,3 millions de chômeurs, donc un chiffre beaucoup plus important, 500 000 personnes de moins pour les chiffres de l'INSEE, mais là-dessus, à la limite, il faudrait compter 300 à 400 000 personnes en plus. Hein, oui, c'est-à-dire ça. que Pôle emploi ne compte pas. Et donc, à un moment...
Donc le différentiel, c'est 100 000, en fait, finalement.
Le différentiel s'approche de 1 million, en fait. Pourrait
s'approcher
de 1
million.
Donc, alors le pourquoi du comment, alors bonne question. En fait... Ce qui explique hein, le directeur des études démographiques de l'INSEE, c'est que effectivement, il y a une modification des règles d'inscription à Pôle emploi qui
exact.
A contribué à augmenter le nombre d'inscrits en fait à Pôle emploi. Donc il cite en premier lieu qui est relativement significatif la suppression de la dispense de recherche d'emploi pour les seniors. C'est-à-dire que la catégorie des seniors est la catégorie dont on parlait tout à l'heure qui quand elle est mise au chômage doit s'inscrire à Pôle emploi de fait
mais pas obligée de rechercher du travail.
Elle est désormais officiellement obligée de rechercher du travail depuis la suppression.
Absolument. Mais
d'accord.
Elle est comptée donc, elle est réintégrée dans la catégorie des chômeurs de Pôle emploi. Mais par contre, si elle ne déclare pas à l'enquête emploi qu'elle recherche réellement du travail, qu'elle a fait des démarches actives, parce que c'est ça en fait le critère. Est-ce qu'on fait des démarches actives ou pas, c'est le critère du Bureau international du travail. Et si on est disponible, c'est ce qui va faire basculer dans la catégorie chômeur. Si elle déclare que peut-être qu'elle souhaite travailler, mais que elle ne fait plus de recherche parce qu'elle pense que c'est pas la peine, elle sort de la catégorie. Donc, il semblerait que cette catégorie-là soit contribue en quelque sorte à faire sortir des personnes des statistiques.
Juste une chose, parce que là il y a un truc qui me, alors peut-être c'est peut-être basique ce que je vais te dire, mais Pôle emploi lui il comptabilise par rapport aux gens qui s'inscrivent chez lui. Par contre l'INSEE ne compte que ses enquêtés, donc, et c'est que du déclaratif, donc les gens peuvent aussi dire n'importe quoi, c'est-à-dire ils peuvent très bien dire qu'ils ne cherchent pas alors qu'ils cherchent, ou
bien sûr, mais sauf pas que de... plus l'échantillon est gros en principe et plus la marge d'erreur est réduite. Donc là en l'occurrence c'est fait même pas de la marge d'erreur, parce que l'INSEE estime à 0,3% de marge d'erreur. Donc voilà, ça représente quand D'accord. même un nombre important. Et puis surtout, il y a un nouveau questionnaire qui est sorti qui fait baisser, semble-t-il, les chiffres de 0,5 points. Donc ça fait quand même 300 000 qui D'accord. disparaissent. Donc l'un dans l'autre voilà, au moins 300 000. Bon, mais il manque toujours un volume qui est fort important. Donc
c'est assez étonnant ce que tu racontes quand même.
Eh ben, écoute, franchement, à lire et à prendre le problème dans tous les sens, on a du mal à comprendre. Et alors, on a du mal à comprendre. Alors, j'ai dit, bon, la modification des règles, on a d'autant plus de mal à comprendre que finalement, Fabrice Langlard, le directeur hein, des statistiques démographiques et sociales, lui déclare qu'en fait, le halo du chômage, ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est des gens qui sont proches de la catégorie chômeur, mais qui ne sont pas dans la catégorie chômeur. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont effectivement disponibles pour travailler, ils ont besoin de travailler, ils ont envie de travailler, mais ils ne font plus de recherche d'emploi, grosso modo. Hein. Et donc, c'est des gens qui sont, pour une raison X ou Y, découragés. Donc, ça peut être effectivement des gens qui sont trop âgés pour rentrer dans le... pour espérer hein, retrouver un travail. Donc, ces gens-là rentrent dans la catégorie du halo du chômage. Et la catégorie des halos du chômage, selon les chiffres de l'INSEE, imaginez-vous bien qu'elle représente 1,5 million de personnes. Donc c'est énorme, 1,5 million Absolument. De personnes qui sont entre la catégorie des inactifs et la catégorie des chômeurs, c'est-à-dire qui ont été suffisamment découragés pour ne plus chercher du travail.
Tout en étant inscrit à Pôle emploi, précise
Alors,
bien.
Alors ça, non, ça, oui, non, non, oui, non. Ou non.
Voilà.
C'est ça, parce que c'est la source est INSEE, donc tu peux être inscrit ou pas à Pôle emploi. Alors évidemment, ces gens-là peuvent être comptés à Pôle emploi, s'ils sont inscrits effectivement à Pôle emploi. Donc Fabrice Langlard déclare lui-même finalement que la catégorie du halo du chômage qui a fortement augmenté, hein, qui a augmenté de 200 000 personnes depuis le début de la crise, eh bien cette catégorie-là contribue peu au surcroît d'inscrits à Pôle emploi. C'est-à-dire que, à part pour les seniors, ça explique pour une petite partie le surplus d'inscrits à Pôle emploi, et donc la réponse n'est pas à chercher là-dedans. Alors on pourrait se dire que la réponse serait à chercher auprès des jeunes. Donc les jeunes, je précise, les jeunes traditionnellement, c'était des jeunes qui finissent leurs études, par exemple, n'ont pas forcément la nécessité de s'inscrire à Pôle emploi. Ils ne touchent pas d'indemnité, ces derniers temps ils ne voient pas particulièrement l'intérêt, et donc ces gens-là sortaient des statistiques de Pôle emploi.
Mais ils pourraient pas s'inscrire, en fait.
Si, ils peuvent, bien sûr.
S'ils ont pas travaillé.
Ah, mais même, t'as pas besoin de travailler pour t'inscrire à Pôle emploi.
Non, ils ont à peine l'indemnité. Ah oui, c'est ça.
C'est ça. Voilà. Donc, d'où le fait qu'ils ne s'inscrivent pas. Sauf que, l'enquête emploi de l'INSEE les prend justement en compte. Et finalement, le chômage des jeunes est plus élevé, selon les statistiques de l'INSEE, que selon les statistiques de Pôle emploi.
Alors, ah oui, ça, et pourquoi?
Et oui. Et donc, du coup, où est la perte? Où est la perte de... Alors, on dit, bah, c'est possible que finalement, aujourd'hui, du fait de la crise, les jeunes s'inscrivent systématiquement à Pôle emploi pour essayer de bénéficier d'un accompagnement. Mais rien n'est sûr, en fait, hein. Et donc voilà. Et alors, il y a une autre hypothèse, mais qui paraît pas très convaincante, hein. C'est celle de, qu'il y a un certain nombre de personnes qui déclarent tout simplement ne plus vouloir travailler, parce que, ma foi, tout en étant inscrit à Pôle emploi, hein, ma foi, ils n'ont plus aucune chance de retrouver du travail. Mais bon, entre souhaiter travailler et ne être découragé et ne plus du tout vouloir travailler et que ça devienne un phénomène massif, bon, franchement, il y a un doute. Et donc, moi, j'ajouterais juste une dernière remarque comme ça. Mais finalement, on a quand même envie de se dire, au vu de ces statistiques d'abord qui induisent presque un doute permanent auprès du citoyen sur la validité, en fait, hein, des chiffres qu'on nous présente, que les critères retenu pour compter les chômeurs au niveau international sont des critères tellement restrictifs qu'ils vont finir par ne plus vouloir rien dire. Je veux dire par là que quand on place comme critère déterminant la recherche active, donc en l'occurrence dans le mois qui précède l'enquête, pour être en catégorie chômeur, eh ben oui, mais partant de chômage très élevé, effectivement que naturellement on sort toute une catégorie de la population des statistiques. Et la meilleure preuve en est quand même ce chiffre ahurissant de halo du chômage, de personnes qui souhaiteraient travailler mais qui ne font plus de recherche, de 1,5 million, je le répète.
C'est énorme. Hein.
Donc si vous ajoutez aux 2,8 millions de chômeurs, ça donne un chiffre quand même ahurissant. Et ma foi, on peut se dire qu'il y a
donc,
de quoi...
Donc la courbe n'est pas inversée selon ce qu'avaient dit certaines personnes dans la presse
De toute façon, on n'en sait rien. Officiellement, ouais. elle est inversée de 0,1%,
oui,
mais
officiellement,
il y a une marge d'erreur de 0,3%, et le nouveau questionnaire a fait disparaître 0,5% de chômeurs. Donc si on était resté à l'ancien questionnaire, donc ça serait au minimum resté stable.
Oui. Très bien. Alors, merci Ludo. Alors justement, je voulais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant des seniors qui effectivement n'ont pas obligation de chercher du travail à Pôle emploi. Je crois que c'est 57 ans, il me semble,
à l'époque.
Oui. Il y a quelques années de ça,
oui.
Enfin, je sais plus.
Oui, au moment de avant la suppression de.
Et aujourd'hui, si, effectivement. Alors maintenant, les retraites sont repoussées à pas d'âge. Donc maintenant, il faut avoir quel âge pour éventuellement ne plus être obligé de chercher du travail à Pôle emploi?
En fait, l'idéal, c'est si t'as été... en principe, non, il faut pas ne plus avoir d'âge, hein, ma connaissance. Hein.
Très bien. Alors justement, est-ce que les vieux ne veulent plus travailler? Alors dis-moi, Christophe.
Ah ben c'est... Non, comment ça, les vieux? Tu fais partie des vieux?
Non, pas du tout.
Statistiquement.
ça va, moi.
donc les seniors, ouais. C'était le grand thème. Alors, je voudrais rappeler une chose qui est absolument extraordinaire, c'est que l'OCDE, qui fait partie des organismes économiques libéraux, des think tanks de ce beau vernis capitaliste, pendant des années, on prêchait la flexibilité, la flexisécurité... dans la novenante, qu'est-ce qu'on va trouver là sous la table? Enfin bref, libéralisons, donnons de l'air.
Le marché du travail.
Ouais, la liberté économique, etc. Le patronat n'a plus d'argent.
La liberté d'entreprendre aussi.
La liberté d'entreprendre. Ouais. La liberté d'aider aussi, 50 milliards d'euros en échange de rien. Vive le pacte de responsabilité.
On en parlera, effectivement.
Absolument. Et sur ce grand écart, alors là, je sais pas, y a-t-il eu de la distribution de marijuana au sein de la CDE? Parce que c'est un grand écart, c'est historique.
La crise.
C'est complètement aberrant, parce que l'OCDE, donc l'Organisme du Commerce et du Développement Économique, dit à la France, vous devez inciter vos seniors à travailler. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était coup de pied au cul dehors. Hein, et puis maintenant, non, ils sont bien. Alors,
c'est toujours coup de pied au cul dehors, hein,
Alors... qu'est-ce qui se passe? Si la France a vu en fait son taux d'emploi senior fortement progresser ces dernières années du fait du recul progressif de l'âge de départ à la retraite, hein, c'est mécanique, hein, c'est pas parce qu'on crée des emplois, Il y a un problème, c'est que tous les dispositifs publics de pré-retraite que met en œuvre la France permettent tout simplement de créer des pré-retraites déguisées. Et ça coûte cher. Alors du coup, l'OCDE estime nécessaire de rendre moins attractives les ruptures conventionnelles en fin de carrière. On pensait qu'ils étaient devenus de gauche. Grande erreur. Ce mode de rupture semble particulièrement attractif pour les seniors, les mieux rémunérés et leurs employeurs, mais s'accompagne rarement d'un retour à l'emploi après 58 ans, défend l'organisation. Elle rappelle que les ruptures conventionnelles représentent plus d'un quart des fins de CDI chez les 58-60 ans, donc contre 16% pour l'ensemble des Français. Contrairement aux démissions, les ruptures conventionnelles permettent aux salariés de bénéficier de droits au chômage, un système qui constitue dès lors des pré-retraites déguisées, dit l'OCDE. Sauf que d'autant que la durée d'indemnisation maximale des chômeurs de plus de 50 ans est 3 ans. Tu le rappelais à l'instant, on revient à une chose. Alors, c'est un petit article du Monde qui date du 30 janvier. Alors, je ne peux m'empêcher de citer quelques éléments de cet article sur un air un peu...
Des éléments de langage ou...
Des éléments de langage un peu pédants parce que c'est là où tu as envie de passer la corde au cou à certaines organisations. Enfin, c'est une envie hein, syndicale. Puisque selon les préconisations de l'OCDE, ça fait vraiment de vagues ces histoires de rupture conventionnelle. Ben, pourquoi ? Parce que à la création de la notion de rupture conventionnelle en 2008, il y a eu un léger flux en 2013 avec seulement 318 000 ruptures homologuées. Puis la CGT réclame depuis plusieurs années, depuis la mise en place de cette idée ultralibérale, qu'il y a un encadrement, puisque comme je viens de le citer dans un précédent article sur les attendus de la Cour de cassation, on peut rompre, c'est encore mieux que le divorce, quoi. C'est encore plus rapide, et puis les droits du salarié sont...
C'est du référé, quoi.
C'est du référé quasiment inexistant. Donc, du coup, la CGT réclame depuis plusieurs années leur encadrement en arguant qu'elles alourdissent le déficit de l'assurance chômage, ce qui est totalement exact. Mais alors, devinez quoi? Parce que ça, on l'oublie. Vous savez quel est le syndicat qui a poussé pour qu'on crée cette... rupture conventionnelle ?
Le même qui pousse aujourd'hui à la réduction des droits des seniors à l'UNEDIC.
Tu peux le nommer, s'il te plaît ?
Je sais pas.
La CFDT.
La CFDT, pardon. Voilà. Ah, il y a aussi la CGC qui a aussi
voilà,
poussé.
Voilà, les repreneurs. Bon. Alors, ça a fait un effet d'aubaine de type libéral, c'est-à-dire privatiser les profits, nationaliser les pertes. Et puis, ça crée des choses. Alors, l'OCDE, on croit rêver. Là, on est dans un rêve. Avance des idées. Utiliser régulièrement la méthode des candidatures fictives pour identifier la suspicion de discrimination d'une entreprise particulière. Une fois repérée, l'entreprise devrait faire elle-même la preuve qu'elle n'a pas de pratique discriminante. Bon courage. Déjà qu'on a supprimé la halte, qu'on a mis un défendeur contre des droits, genre un bousin, quoi.
S'il te plaît.
Tu peux rappeler peut-être ce que c'est que la CFDT quand même. Ce n'est que le MEDEF déguisé. C'est basse que je viens de dire.
Un instant de lucidité. Bon, nous excusons pour cet un syndicat d'accompagnement.
Voilà.
Et lorsqu'on est mauvaise langue, on dit social traître.
D'accord. Bon, je veux dire, on a.
Donc, l'OCDE dit de sanctionner ces mauvaises pratiques. Bon courage, il serait bien de reconsidérer la prise en compte automatique de l'âge et de l'ancienneté pour valoriser, au contraire, l'expérience qui maintient la productivité des seniors. Qu'est-ce que c'est beau !
C'est beau, hein. Ouais,
un organisme libéral qui dit on a fait trop de libéralisme. C'est très mignon.
Et il nous reste quelques minutes et alors. Qu'est-ce que nous avons alors? Oui,
tu veux que je te parle du pacte de responsabilité?
Ah oui, quelques mots là-dessus. Parce qu'on,
Là, on est en cours de négociation. Donc, une négociation, on ne commande pas une négociation. Je rigole. Bon, je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de la négociation. Je vais finir cette émission par justement une note sur donc qui est de Monsieur Michel Husson, qui est chercheur à l'IRES, justement, qui s'intitule « Les cotisations sont une charge ». Mais pas les dividendes, point d'interrogation. Voilà, et pourquoi ? Parce qu'il parle évidemment donc de la baisse de cotisation de ce fameux pacte de responsabilité. Alors, c'est intéressant parce que lui, il a plein de graphiques de partout, donc vous pouvez pas les voir à la radio, désolé. Mais quand même, il montre dans son premier graphique que le grand coup d'arrêt, le début des exonérations de charges sociales commence avec les socialistes en 1985, un peu plus, 86, ouais, 1980, c'est avant, oui, tiens, on pourrait se demander s'il est honnête, parce que ça pourrait être Jacques Chirac, mais bon, disons fin 85 ou début 86, c'est les premiers allègements de cotisation. Et depuis, elles n'ont fait que baisser, avec une baisse importante à partir de 97, l'époque de Jospin. Pour être tout à fait honnête, elles avaient été entamées par Juppé précédemment, mais elles ont été bien entendu prolongées par Lionel Jospin. Et c'est les deux grandes inflexions d'exonération. Donc, il donne quand même un volume qui représente actuellement. Enfin, qui représentait, pardon, non, à son pic historique. Avant la décision de François Hollande, qui représentait quand même 25 milliards d'euros pour le budget de l'État. C'est énorme. Je rappelle que François Hollande vient de rajouter exactement le double. Donc, effectivement, donc il fait ensuite une troisième comparaison, et je vais essayer de faire vite. C'est, il dit, bon ben oui, eh ben on s'aperçoit aussi qu'en fait finalement l'augmentation des salaires ces dernières années en réalité est permise très probablement simplement par les baisses de cotisations sociales. Donc il monte courbe à l'appui, c'est-à-dire que vous voyez les salaires augmenter proportionnellement à peu près de la même façon que les cotisations sociales baissent. Donc je rappelle que les cotisations sociales, c'est du salaire différé, c'est-à-dire c'est pour votre retraite, pour
absolument.
Et que donc c'est donc une perte de salaire net à la fin pour les salariés. Et puis il pond un quatrième graphique, et je fais ça toujours très vite. Il dit bon ben voilà, et bien on s'aperçoit bien aussi que parallèlement à la baisse de cotisation des charges, on a une montée en puissance des dividendes. Donc, il est.
Ah, oh, qu'est-ce que c'est
là,
étonnant!
Voilà, des dividendes versés aux actionnaires, et je le cite, ce recul des cotisations sociales à partir des années 80 a eu comme principale contrepartie l'augmentation de la part des dividendes nets versés dans la valeur ajoutée, parce que là, oui, on parle de valeur ajoutée. Ce graphique fait apparaître une très nette corrélation inverse sur la longue période. La montée de l'état social s'est faite au détriment des actionnaires, sa remise en cause se fait à leur profit. Dernier graphique, et on voit bien que finalement la baisse des cotisations sociales n'a pas plus profité à l'investissement, puisqu'on voit que depuis ces dernières années, exactement depuis 2007, bon, c'est vrai qu'il y a la crise, mais globalement, l'investissement est en baisse historique, pendant que les dividendes augmentent et les cotisations, donc c'est-à-dire la part des salariés dans la valeur ajoutée, baissent.
Merci. C'est QFD.
Merci à tous les deux, cette émission se termine. Je tiens à répéter que je ne suis pas vieux, voilà, donc je plaisante.
Merci.
Voilà, merci à tous de l'avoir écouté. Bisous aux filles et poignées de mon garçon. À bientôt.
Bonsoir.
Ciao.